Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
De retour dans Bien fait pour vous, votre émission bien-être dans laquelle on vous fait profiter de tous nos bons plans. On va décrypter les tendances actuelles qui valent le coup, qui nous font du bien, qui vous font du bien. Et donc, pour démarrer notre séquence tendance, c'est toujours en cuisine que ça débute. Avec vous aujourd'hui, Grégory Cuilleron, avec un plat familial apprécié de tous, lequel ?
Ah, la tomate farcie.
Ah, j'adore. Tout le monde aime la tomate.
Bah oui, je crois qu'il n'y a pas de... Aurène, vous aimez ça aussi ?
Moi, j'adore ça.
Bon, allez, on va se régaler, j'en suis sûre. Et j'ai hâte d'avoir votre recette, Grégory, parce qu'il y a plusieurs écoles pour les tomates farcies. On verra ça. Ensuite, ce sera à votre tour, Sophie Braffman. On va parler chaussures avec vous.
Et pas n'importe lesquelles, des sneakers. Je crois que tout le monde en porte. Et autour de cette table, un certain nombre en porte.
Ah, ouais. Pas moi aujourd'hui.
Julia a des bottes. Mélanie aussi.
Moi aussi, ouais.
Bah, les garçons sont très sneakers.
Grégory a des sneakers. Allez, ouais. Parfait.
Et puis, on va terminer cette partie tendance avec les conseils beauté de notre docteur beauty à nous, Aurène Marco. Bonjour.
On va parler d'un truc pas très glamour.
C'est quoi les poils ?
On s'en débarrasse ou pas de ces poils ?
Chacun fait comme il veut.
C'est l'hiver, ça tient chaud. Non, j'aime pas trop en fait.
Bon, mais par épilation définitive.
Exactement.
Mais si certaines veulent les garder ou certains, on les encourage.
Chacun est libre.
Merci Aurène, ça sera avec vous dans quelques minutes. Mais avant de parler beauté, on va se mettre à table tout de suite dans Bien fait pour vous.
Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances.
Alors, on débute comme tous les jours à midi par la chronique gastronomie de cette émission. Et pour cela, je me tourne, enfin je dis ça, mais je ne me tourne pas parce qu'il est en face de moi, vers le chef cuisinier Grégory Cuilleron. Alors Grégory, comment on fait les tomates farcies ?
Alors déjà, Julia, merci pour Cuilleron et non Cuilleron.
Vous avez vu, elle a le sang.
J'ai vachement progressé depuis la semaine dernière.
Je lui ai dit comme cuillère, comme cuillère.
Bien joué.
J'ai quand même dit qu'il y aurait trois chroniqueuses dans le studio. Je me suis un peu plantée aussi.
C'est pas grave, on ne juge pas. Et oui, nous sommes fin octobre et contrairement aux idées reçues, nous avons encore des tomates sur les étals de marché.
Mais je croyais que c'était fini.
Et c'est normal. Non. Elles sont bonnes. Alors, moi, ce sont mes tomates favorites pour réaliser des coulis. Parce qu'elles ont bien mûri sous le soleil automnal. Elles sont un peu talées, vous voyez. Elles sont pas très fermes, mais elles sont d'enfer.
Comme moi. Non, je regarde.
J'ai pas compris.
Bref, on peut faire des tomates farcies.
Ok.
Sauf vous, Mélanie.
Bah oui, pourquoi ?
Bah vous m'avez confié. Il y a
moi,
15
j'en ai
jours.
Pas eu cette année.
Bah ouais. Donc, fallait arracher les pieds de tomates. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Bah le mildiou. Comme beaucoup. J'ai eu zéro tomate cette année.
Moi aussi, j'ai un potager, j'avais pas de tomates.
C'est vrai ?
Ouais.
Investissez dans une maison dans le sud, je sais pas. Faites quelque chose.
Oui, bien sûr.
Ah oui, évidemment. Mildiou. Mais bon, avant d'aller un peu plus loin, je voulais quand même reposer les bases de la tomate. La tomate est un fruit car issu d'une fleur. Alors, on la consomme essentiellement en préparation salée. Le sucré, on a quand même de temps en temps des petites confitures, des beignets de tomates vertes, mais enfin, ça reste marginal. Donc, pour en revenir à la tomate cette saison, donc elle est un peu épaisse, elle est bien rouge, donc ça on l'aime, et donc elle est parfaite pour la cuisson.
C'est bien ça.
Alors, bon, vous, je sais pas, mais moi j'ai toujours des petits morceaux de viande tout rabougris là qui traînent, une tranche de rôti par là, poulet émietté,
les restes.
Bah
oui.
Du confit qui ragougnote, enfin bon bref.
Donc moi qui ragougnote.
Bah oui, ça fait du ploc ploc, vous voyez, vous avez un petit peu de sauce et tout, c'est plutôt pas mal. Et donc ce que je vous propose de faire, c'est de réutiliser les restes.
Donc c'est de la récup du pas cher aujourd'hui.
C'est
en plus.
De la récup pas cher, ça nous permet de, vous allez voir, on récupère des restes de viande, on récupère du reste de pain rassis.
Donc je vais peut-être aller récupérer mes vieilles tomates dans le composteur.
Vous allez faire des miracles.
C'est ça.
Donc, c'est bien simple. Il nous faut. Alors, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre les petits bouts de viande, les mettre dans un petit sac congélation et de les conserver au congèle jusqu'à ce que vous en ayez à peu près 300 grammes pour 4 personnes.
Mais donc, on mélange plein de viandes différentes. Ça peut
bien
être
sûr.
Du poulet, du porc, enfin, tout est
Après,
mélangé.
C'est selon vos goûts.
D'accord, ok. Mais on peut faire ça en tout
cas.
Ouais,
moi, je sais que par exemple, j'aime pas trop mettre du gigot parce que je trouve que ça donne un parfum un peu trop fort à notre farce. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est une recette fourzitou.
Poulet, saucisse, bœuf, tout ce qui nous reste.
Même les tranches de jambon.
D'accord.
Donc, on jette plus rien en fait, grâce à vous.
Mais bien évidemment, on ne jette plus rien grâce à moi.
C'est génial.
Et donc, du coup, on va prendre cette vieille viande, on va dire, cette viande, ses restes, 300 grammes. On va rajouter 100 grammes de poitrine fraîche hachée. Alors, poitrine fraîche, c'est comme du lard, mais c'est pas salé, c'est beaucoup mieux.
Comme du bacon, un peu Non.
Non, parce que c'est pas salé, c'est pas fumé.
Ah oui, d'accord.
C'est comme de la poitrine fraîche.
Allez, voilà.
Et alors, on peut aussi prendre de la poitrine de veau si on n'utilise pas de porc, mais il nous faut quelque chose de gras.
D'accord.
On va commencer par faire tremper du pain dans du lait.
D'accord, parce que là,
alors,
tout va bien.
Je vous ai pas donné la liste des ingrédients, donc... 4 à 8 tomates selon la taille, 300 g de reste de viande, bœuf, veau, poulet ou autre, 100 g de poitrine fraîche de porc ou de veau, un œuf, 100 g de pain rassis, 25 cl de lait, un oignon frais, une cuillère à soupe de persil haché, 2 gousses d'ail, une cuillère à soupe d'huile d'olive et un peu de riz long.
Bon, alors, tout ça, on a à peu près chez soi. Hein, c'est
bon,
pas
une fois qu'on a les ingrédients, comment ça se déroule?
Eh ben, on fait tremper le pain dans du lait.
D'accord.
Pendant une demi-heure, parce qu'il est rassis, je vous le rappelle. Donc, on le presse bien.
Pour qu'il devienne un peu mou, un peu
malléable. Exactement, quoi, hein, carrément. On le presse bien. On va le mettre dans un mixeur avec l'oignon et l'ail. On va rajouter l'œuf. On va bien mixer.
D'accord, jusque-là tout va bien.
On va rajouter nos viandes. Alors, les viandes directement déjà cuites, on va soit les découper, soit les effilocher.
D'accord, mais vous ne laissez pas des morceaux. Bah alors, l'idée, c'est pour la tomate farcie.
Deux
c'est
écoles.
Mieux.
Ouais. Il y a ceux qui aiment les morceaux, ceux qui n'aiment pas les morceaux.
Moi, j'aime bien les morceaux.
Ah bah, moi, j'aime pas trop.
Ah bon ?
Moi, j'aime bien avec les morceaux.
Moi, je suis Tim Oren. Ouais.
Ouais. D'accord, très bien.
Sophie, morceau, pas morpho, c'est, non, c'est important de répondre.
Sophie s'en fout.
Non, je vais me mettre dans la team morceau. Allez, hop, c'est chouette.
Bon,
moi, je suis avec vous, Grégory, j'aime pas les morceaux.
Merci beaucoup. Donc, on va plus ou moins hacher selon qu'on est ou non dans la team morceau. On va assaisonner. Ensuite, on va creuser nos tomates. Alors, on me demandait ce week-end, mais comment fais-tu pour que tes tomates ne rentrent pas trop d'eau?
Ouais, moi, je fais surtout des trous au fond à chaque fois. Je sais pas comment
ça débrouille. Ah bah non, c'est dommage, le trou au fond. Non, je ne conseille pas le trou au fond. Eh bien, on va juste mettre un petit peu de riz long au fond. Et le riz va pomper l'eau de la tomate.
C'est là où je me dis qu'il y a deux écoles. Il y a des gens qui mettent du riz au fond de la tomate farcie, il y en a qui en mettent pas quand même.
Donc, non mais attendez, bon d'accord, on met du riz, mais après il faut combien de temps on fait cuire? Comment ça se passe?
Eh bien, alors on va bien remplir nos tomates. Alors il faut faire attention parce que la chair peut se rétracter, donc on va bien les faire que ce soit bien bombé. On n'oublie pas le couvercle parce que c'est meilleur avec le couvercle. Moi j'adore
la petite
ce petit couvercle.
Ouais.
Tout confit et tout, c'est super bien. Et là, pareil, deux écoles de cuisson. Soit on enfourne à chaud à 180 degrés pendant 30 minutes, puis on baisse à 160 pendant 15 minutes.
D'accord. Ouais.
Soit on leur laisse le temps et on va les cuire une heure à 150 degrés.
Moi, je sens que vous êtes de cette team-là. Vous.
Moi, je suis team, on laisse plus de temps parce que ça confie, ça compote tout tranquillou. Oui. Et puis, bon, ça ne demande pas trop d'attention.
Moi, je suis toujours pour la cuisson lente, enfin comme ça, à basse température, je trouve que tout est meilleur, la viande, c'est enfin, vrai. Je ne sais pas.
Bah, ça évite de trop violenter la viande, qui va se rétracter, va pas être terrible.
J'ai l'impression que Sophie Braffman s'en fout.
Sophie Braffman, elle prend des notes parce qu'elle cuisine mal.
Voilà. Elle est comme moi.
Voilà. Elle cuisine pas très bien et elle se dit qu'à la fin de la saison, grâce à Bienfait pour vous, elle va peut-être s'y mettre.
Avoir un agenda de recettes, là, incroyable.
Et petite astuce saison, quand même, pour Mélanie, qui, par exemple, n'a pas de tomates ou les autres personnes.
Je suis capable d'aller en acheter, quand même, par contre.
C'est possible.
On peut utiliser cette recette de farce avec le hachis parmentier. Mais également, là, il y a l'Halloween qui arrive avec les mini potirons.
Pour
les enfants, c'est rigolo.
C'est sympa.
C'est pas mal. Ça fait manger de la courge, hein, comme ça. C'est ça. Pas qu'en soupe, on peut les manger de différentes façons. Quoi, c'est ça.
Exactement.
Donc, une recette multi-possibilité, en réalité.
Fonds-y tout.
Allez, super. Merci beaucoup, Grégory, pour cette mise à l'honneur de ce grand classique, les tomates farcies. On a bien pris note de tous vos conseils qu'on va reproduire chez nous. Franchement, il n'y a plus qu'à se lancer. Merci beaucoup. Restez avec nous. La séquence tendance continue des découvertes du côté de la mode à venir avec Sophie Braffman. Et puis les conseils beauté du docteur Oren Marco, il va nous dire tout ce qu'il faut savoir avant d'envisager une épilation définitive sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et notre séquence tendance se poursuit. On est là pour partager avec vous nos bons plans, les tendances qu'on a repérées pour vous et qui sont très chouettes. Et donc là, tout de suite, c'est Sophie Braffman qui va prendre la parole pour nous causer chaussures, baskets de ville. Il y en a pas mal devant vous pour ceux qui ont la vidéo sur europe1.fr.
Je vais les montrer.
Voilà, alors Sophie, on a tous une petite paire qu'on aime bien enfiler comme ça pour aller faire nos courses ou pour aller au boulot. Parce que c'est bien sûr très confort, mais aussi très à la mode, les sneakers, alors, les baskets de ville, c'est
on
ça
a fait le petit jeu tout à l'heure autour de la table pour voir qui portait des sneakers. Les garçons évidemment.
À fond.
On a l'iconique Stan Smith.
C'est sneakers parce que ça.
Oren, elles sont classe.
C'est
sneakers,
plus sport,
elles sont,
non
ouais,
ça vraiment.
Reebok, c'est vraiment une basket. Voilà. Julia qui a mis des bottes quand même, mais ouais, c'est
la première chien, fois depuis que je fais bien fait pour petit. Vous, je suis en sneakers en permanence.
Ah ben bah, vous voyez, donc je n'ai pas tort de dire qu'au moins 8 personnes sur 10 portent des sneakers. Alors la très bonne nouvelle, c'est que la sneakers aujourd'hui s'invite au musée. Ce sont les vacances scolaires. Peut-être avez-vous à la maison des ados désœuvrés devant TikTok. Fortnite, en train d'acheter des skills. Vous savez, c'est des vêtements virtuels. Ceux qui ont des ados
qui ne mettront jamais.
Mais qui coûtent une blinde. Il y a même des vêtements Balenciaga, comme ça. Ou alors, ils sont en train de regarder la fameuse série dont on parlait tout à l'heure, Squid Game sur Netflix. Vous en avez marre, vous en avez assez. Vous allez enfin pouvoir les traîner au musée, puisque les sneakers entrent au musée. C'est même le titre de l'exposition.
Ça, les gosses, c'est
alors,
sûr,
non seulement les gosses vont adorer ça, mais c'est plus intéressant qu'il n'y paraît, parce qu'il ne s'agit pas que de montrer des sneakers. Il y a vraiment une approche sociologique, anthropologique, bref, plein de choses. Une exposition qui est jusqu'au 25 juillet au Musée de l'Homme à Paris. Alors, il y a deux ans, il y a déjà eu une exposition du même acabit à Bordeaux, hein, donc c'est pas que à Paris. Et certainement que cette exposition va aussi se promener en province. Donc, bien sûr, ce n'est pas Van Gogh, hein, comme vous l'imaginez, mais tout de même, on apprend plein de choses.
Un peu de culture pour nos ados, hein, c'est bien, on est content.
Mais est-ce que vraiment tout le monde emporte des sneakers? Non,
alors,
pour de vrai.
Pour de vrai, non seulement tout le monde emporte, mais c'est décliné pour toute la famille. Vous savez quoi? Même Bernard Arnault porte des sneakers. Alors, franchement, si Arnault, c'est quand même une référence. Hein. Bernard Arnault ou François Pinault, donc des hommes quand même assez riches hein, dans les grandes fortunes de France, portent aujourd'hui des sneakers. Moi, j'ai l'impression que la question, c'est plus tellement de se dire si on en porte encore, c'est comment on les porte ? Parce qu'aujourd'hui, la sneakers, elle dévoile énormément de choses quand elle parle de nous. D'ailleurs, quand on pense aux maisons de couture, aux maisons de mode, aujourd'hui, ce ne sont plus des maisons de mode, mais quasiment des maisons de sneakers, puisque les grandes marques, je vois qu'Aurène suit bien sur l'histoire des grandes marques de la sneakers.
Je me demande si on peut porter la sneakers en toutes circonstances.
Eh bien, justement, en toutes circonstances, parce qu'on a de la sneakers bourgeoise aujourd'hui, de la sneakers bourgeoise traditionnelle, bourgeoise un peu bling ou bourgeoise bohème. Bon, alors, d'abord, je vais quand même vous rappeler un peu ce que vous allez voir dans cette exposition avant de revenir sur cette sneakers iconique. Et j'ai rencontré pour cela Émilia Riquet, qui est responsable de la médiation et des activités culturelles en famille. Et voilà ce qu'elle nous dit au sujet de l'exposition Sneakers.
Cette exposition, elle a été construite avec différentes approches anthropologiques, sociologiques et une partie aussi biologique avec un espace expérimental dans l'exposition qui permet aux gens d'étudier en fait les points d'appui de leurs pieds. Et donc de comparer par rapport à la grande diversité de pieds qui existe dans le monde.
Alors, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a vraiment des scientifiques qui vont se pencher sur la question. On parle de cette histoire anthropologique, de l'évolution du pied. D'ailleurs, vous voyez, donc en médecine, en fait, plein de choses évoluent en fonction de ce qu'on porte. Et du coup, ils vont même faire un atelier qui va être mis en place après, qui s'intitule en gros « Balance ton pied à la science », où on va mesurer les pieds des gosses et voir, en fait, parce qu'on leur met des sneakers depuis qu'ils sont tout petits. Est-ce que ça a une incidence sur la marche, sur le côté pied plat, etc. Ça a certainement une incidence. Donc, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est de voir aussi à quel point on a un rappel anthropologique, on a un rappel sociologique, on voit un petit peu l'évolution de la sneakers dans l'histoire. On connaît tous aujourd'hui la Stan Smith comme une chaussure hein, de tennis, mais avant d'être une chaussure, c'était aussi un monsieur. Donc on rappelle tous ces modèles iconiques et comprendre pourquoi la sneakers aujourd'hui est un véritable phénomène de mode. On écoute Emilia.
La sneakers aujourd'hui est un vrai phénomène de mode hein, depuis les années 80. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que des grandes marques de luxe aujourd'hui utilisent la basket sur finalement les podiums. Donc ce qui fait que depuis les années 80, finalement, c'était une mode plutôt utilisée dans les banlieues, alors qu'aujourd'hui, on la retrouve sur des podiums de luxe.
Alors, on est passé par le sport, on est arrivé à l'univers du rap dans les années
80. Et elles vont même au bloc opératoire, parce que je suis sûre qu'Aurène, vous les mettez pour opérer vos sneakers.
J'avoue que je consulte en sneakers, et je me suis toujours demandé si j'étais pas un peu trop décalé de faire ça, et en fait, non, ça passe.
Pas du tout, aujourd'hui, même des hommes politiques portent des sneakers, on a vu des grands patrons aussi
le faire. Et des grands cuisiniers, regardez,
il est dans Stan Smith, le modèle iconique. Alors, je me suis dit, j'allais vous faire un petit reflet de personnalité en fonction des sneakers récemment sortis. Alors, je commencerai avec la bourgeoise traditionnelle, un peu bling tout de même, il faut le dire, puisque c'est une sneakers Dior, comme vous pouvez le voir.
Vous pouvez la voir sur la vidéo.
Très discrète. Alors, dorée, elle existe, Julie, en modèle argenté, donc un peu plus discrète.
Pour ceux qui ne voient pas, je précise quand même qu'elle n'est pas du tout discrète, évidemment. Elle est blanche, transparente, avec du doré, on dirait qu'il y a de l'or partout.
Voilà,
Je trouve ça immétable, mais après, chacun fait pas du tout.
C'est ce qu'on appelle en mode une pièce image. C'est une pièce forte. On va vous remarquer, par exemple, si vous avez une tenue sobre et tac, une petite sneakers Dior, et tout de suite,
elle vous plaise bien, Julie.
Julie, elle aime bien la sneakers Dior.
J'aime bien le côté Paris Hilton qui sommeille en moi.
Que c'est le côté un peu bling qui vous plaît.
Je les laisse celle-ci.
Alors ensuite, on a plutôt la sneakers, je dirais, pour la bourgeoise bohème, à tendance un peu écolo, avec
ça, c'est
la
pour
marque.
Vous,
ça, c'est
plus
genre. Ça, c'est pour Mélanie, mais stylée tout de même, puisque c'est une collab avec la maison Make My Lemonade.
Ouais,
et là, du coup, on peut tracer hein, toute l'historique de la sneakers, puisque cette marque s'est fait connaître pour ça.
C'est rose, mauve,
violet. Donc, violet, qui est très tendance pour cet automne-hiver. D'accord. Donc n'hésitez pas, voilà, elle est très jolie également. Et enfin, alors là, je dirais, c'est la sneakers pour la stylée astucieuse, puisqu'elle est à tout petit prix celle-ci chez Texto, et franchement c'est une
pièce
image.
Elle est très belle,
c'est ma préférée des trois et c'est la moins chère en
56
plus.
56
hein.
euros.
Bah oui, et la mienne, elle fait combien?
Alors la vôtre est un tout petit peu plus chère, je crois qu'on avoisine plutôt les 1000. Hein, mais encore une fois,
mais le pied ou les deux?
si vous prenez un pied, on vous fait un prix.
Ouais, c'est ça. Vous prendriez laquelle de chaussures?
Moi personnellement, je prendrais vraiment la Texto, je pense.
La Texto, voilà.
La Texto, elle est marron, dorée également. Elle a un côté très chic, mais 50 balles, donc on adore.
Elle est très visible, et puis voilà, vous
n'hésiterai peut-être pas à en changer du coup.
Et puis c'est quand même la sneakers à 1 000 euros, c'est compliqué quand même, hein. On n'est pas nombreux à pouvoir
Encore une fois, et c'est ça que je trouvais intéressant dans cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, les maisons de couture sont toutes des maisons de sneakers. Quand on pense à la sneakers Balenciaga qui a été 1 milliard de fois imitée, on les connaît toutes. On ne connaît pas le caban Balenciaga ou le sac Balenciaga, c'est ou en fou, tout cas hein. beaucoup moins. Mais la sneakers, oui.
Ben, merci beaucoup Sophie pour cette prescription mode. On aime toujours vos conseils avisés. Et en matière de chaussures, de baskets, même, hein, c'est tout aussi important que le reste. C'était bien de le préciser ce matin. D'ailleurs, Sophie, maintenant, on va changer de sujet. Même, je sais que vous êtes très branchée mode. Vous êtes néanmoins une femme. Enfin, vous restez...
Et je suis branchée poil.
Vous avez des branchées poil. Voilà.
Que ça va être quoi la transition
ben, en fait, la transition, j'allais vous demander, je suis désolée, est-ce que vous vous épilez à la cire, au rasoir ben, ou, comment vous
c'est
faites
une vraie bonne question parce que j'ai démarré, comme beaucoup de jeunes filles, voilà, à la cire, au rasoir. Ouais.
L'épilateur.
Non, oh mon Dieu, les douleurs. Et je suis passée à la cire, comme c'est beaucoup génial. D'entre nous, c'est mieux.
Mais vous savez que grâce au Dr Beauty, vous pourrez bientôt opter pour la version définitive, mais n'importe comment.
Non, alors, ça m'étonnerait, elle est rousse. Est-ce qu'on peut sur poil clair?
Alors, il y a des nouveaux lasers, effectivement, on va en parler.
Alors, génial.
Qui s'adaptent.
Aurène Marco, si on veut se faire épiler de manière définitive, quelle est la marche à suivre?
Alors, définitive, déjà, je ne suis pas sûr, mais d'accord. Par contre, de manière... pérenne dans le temps, oui, il faudra faire des retouches, effectivement. Moi, personnellement, je l'ai fait, je l'assume. Mm-hmm. Effectivement, quand on a un peu trop de testostérone, on perd ses cheveux et en plus, on a des poils qui poussent. C'est pas très sympa.
Donc, ça s'adresse au monsieur, votre chronique, ça, aujourd'hui aussi. Il faut
pas l'oublier.
Et aux
dames. Hein.
Alors, excusez-moi, vous l'avez fait à quel endroit?
C'est un peu intime, Julia, ça, comme question.
Je pensais qu'on était potes, je suis désolée.
On sait tout.
Aurène, hein, continuez, je vous en supplie, docteur, non, grand chirurgien, quand même. Qu'est-ce qu'elle vous pose comme question?
Non, mais là, on va être très carré. Le laser, globalement, ça produit un petit faisceau lumineux qui va détruire le bulbe qui produit le poil. Et en plus, en laissant une micro-cicatrice, va empêcher qu'un nouveau bulbe se recrée. Et donc, du coup, on a besoin de plusieurs séances de laser pour stériliser la zone et arriver à un résultat périn dans le temps. Maintenant, le mot définitif me gêne un peu parce que globalement,
ça peut revenir.
Il faut refaire des séances d'entretien en fait au moins une fois par an, je pense, une fois par an, une fois qu'on a fini le protocole de traitement.
Bon, quand on a enlevé le gros, on est déjà un peu soulagé.
Voilà,
non,
on est déjà un peu soulagé, mais c'est vrai que ça revient quand même.
Est-ce qu'on peut justement parler des protocoles et de la couleur de la peau? Parce que je vois Sophie Braffman très intéressée. Je vous rappelle qu'elle est assez rousse.
Alors.
Elle est trop rousse.
Non, elle n'est pas trop rousse.
Non, elle est magnifique, mais avec une peau très claire.
Alors, déjà...
Oui, et un poil clair aussi. Enfin, ça dépend des zones, hein, mais continuons.
Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour aller se faire dépiler, il faut aller consulter un médecin. Donc ça peut être un médecin esthétique, un dermatologue ou un chirurgien esthétique, qui sont les mieux placés, en tout cas qui connaissent la peau. En fonction de la zone à dépiler, de la pilosité, de la couleur de peau, on aura différents types de lasers qui marcheront avec des protocoles de 6 à 8 séances espacés sur 12 à 18 mois.
D'accord.
Donc tout le monde n'est pas égaux devant le poil.
Est-ce que c'est plus ou moins douloureux selon les techniques?
Effectivement, donc en fonction des lasers, on peut avoir des lasers qui sont plus douloureux que d'autres. Il y a quand on a des poils très drus, très foncés, ou qu'on est mat de peau,
comme vous, Aurène,
comme moi,
tout ça, voilà.
On utilise le laser YAG, qui est un laser qui fait...
YAG, Y-A-G.
YAG, qui est un laser assez douloureux, qui fait mal. Mmh. Et donc, fort heureusement, ils ont inventé une petite astuce, c'est-à-dire que ça balance un peu de froid au même moment que les picotements des lasers pour diminuer la douleur. Quand on a la peau plus claire...
Comme Sophie Braffman. On va sur quel laser?
On va sur un laser qui s'appelle Alexandrite. Et qui...
J'aime le titre.
Tu aimes le titre.
déjà, le titre me plaît, donc je me sens un peu en...
On est en confiance.
Voilà, je me sens un peu en confiance grâce au titre.
Et donc là c'est un laser un peu moins puissant qui convient plus aux peaux claires. Par contre,
c'est une peau normale, hein, comme Grégory Cuiron.
Laser Alexandrite.
Mais ni blanc ni mat, normal.
Je sais pas si Grégory a tellement envie de...
Pas particulièrement, non.
Julien, il a envie de garder ses poils. Non mais moi, est-ce qu'il y a des risques de, je sais pas, de brûlure?
Alors effectivement, c'est pour ça que je vous conseille toujours d'aller faire ça chez des médecins. On a des risques de brûlure. Bon, c'est des risques très très rares parce que les réglages des machines sont vraiment parfaits. Et on a des risques d'hypopigmentation ou d'hyperpigmentation. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut faire des petites taches un peu plus foncées ou des taches hypopigmentées.
Donc on fait pas ça dans les salons d'esthétique. Plutôt chez des médecins, quand même.
On fait plutôt
évidemment
ça chez des médecins. Ouais. Il y a beaucoup de médecins qui le pratiquent, beaucoup de dermatologues, et qui font un bilan carré pour vous permettre de passer à la dépilation. Il y a un nouveau laser, parce que je voulais en parler.
Dites-nous.
On a parlé de l'alexandrite et du YAG. Et il y a un laser c'est un laser à diode qui permet, en fait, il a une surface beaucoup plus grande de traitement, peu douloureux, voire quasiment indolore.
Génial.
Et qui permet de faire des grandes zones en 5 à 10 minutes.
Bon,
vous faites les jambes en 5 à 10 minutes et il convient à toutes les peaux.
Mais
donc c'est la nouvelle génération.
On veut les diodes.
Et on veut les diodes.
Il n'y a pas de risque éventuellement, je ne sais pas, cancérigène par exemple, sur le fait d'envoyer du laser comme ça sur la peau?
Alors effectivement, on a très souvent eu cette question. En fait, la longueur d'onde émise par le laser est beaucoup plus importante et en fait, elle détruit moins les cellules autour. Et donc, du coup, ce risque n'existe pas, en fait.
Très bien. Bah, écoutez, on est rassurés. Donc, merci beaucoup, docteur Aurène Marco, pour ces précisions, ces conseils pour celles et ceux qui seraient tentés donc, par l'épilation définitive. Merci à tous les trois pour ces conseils mode aujourd'hui, ces astuces culinaires. Je crois qu'il y aura des tomates farcies chez beaucoup de gens ce soir, hein, n'est-ce pas, Grégory ?
Je l'espère. C'est, hein. Oui.